De pardon et soyez financé sans intérêt en une seule étape. Identité Québec, à un clic de votre liberté.
Boulevard, le Pit Stop.
Yes, mon homme!
Avec Denis Gravel et Yannick Marceau, on refait le monde pendant 30 minutes.
Hey, ça, c'est un beau Willy, mon gars.
Voici le Pit Stop avec Gravel et Marceau.
Ça, 7h51, Denis Gravel qui est dans la place. Je ne sais pas si tu as entendu, Denis, l'entrevue avec le docteur Savard, qui est médecin spécialisé en neurologie à l'hôpital L'Enfant Jésus. On parlait du sondage. 36% des médecins spécialistes qui veulent quitter le Québec d'ici 5 ans, c'est dramatique.
Intéressant de l'entendre sur les comparaisons qu'on fait avec l'Ontario, puis pourquoi on ne peut pas comparer les chiffres de l'un versus l'autre. Quelqu'un qui semble très lucide, là, pas de l'air de faire de la représentation syndicale. Je pense qu'à chaque fois que les médecins font des sorties comme ça, ils gagnent des appuis. Et ça, ben, le gouvernement de la CAQ l'avait vraiment sous-estimé en se disant ben, les petits Québécois, ils vont prendre le bord du gouvernement parce que les médecins font partie des plus riches de notre société. Puis je pense qu'ils sont pas allés plus loin que ça dans leur raisonnement, puis ça leur est retombé dans face.
Ouais. Ce que je proposerais, par exemple, aux médecins spécialistes, parce que on regarde le représentant là, des médecins spécialistes qui s'occupe, entre guillemets, du syndicat, c'est d'amener des solutions. C'est pas juste dire on veut plus Christian Dubé, il y a une perte de confiance, on veut du Ranceau. C'est de nous amener des conditions concrètes. T'sais, voici les améliorations qu'on veut. Non, on veut pas de cette loi spéciale-là, mais on est prêt à faire ci ou ça. Il semble pas vouloir concéder rien.
Parce que si trouves que la façon de mesurer ta performance n'est pas la bonne, ben amène d'autres indicateurs. Puis ton invité en a fait mention, oui. Puis j'ai trouvé ça très intéressant. Puis je suis d'accord avec lui. L'image du fast-food est très bonne. Je veux dire, nous autres, c'est pas ça qu'on veut nécessairement. Puis quand on se sent traité comme ça par un médecin, on n'aime pas ça non plus. Les témoignages qui rentrent, là, quand ils se font dire, quand on se fait dire « Écoutez, monsieur, je sais que vous avez trois problèmes puis un renouvellement d'ordonnance, mais aujourd'hui, il va falloir choisir entre les quatre puis revenir plus tard. » On n'aime pas ça, se faire traiter
non,
comme ça.
On ressent une frustration.
Si on oblige les médecins juste à y aller avec la quantité de patients reçus, ben on sera de plus en plus nombreux à être traités comme ça, puis je trouve pas que c'est la bonne façon de faire les choses.
De l'autre côté, ben il y a des chiffres qui sortent sous la plume d'Éloïse Archambault dans le Journal de Québec, Journal de Montréal, où on parle de gens qui sont dans le système de santé, qui travaille comme pas possible. L'infirmière la mieux rémunérée au Québec, je connais pas sa condition, je connais pas son âge, je sais pas si elle a des enfants. Elle gagne $500,000 par année. C'est une infirmière clinicienne. À la base, Denis, une infirmière clinicienne fait un salaire de $72,500 par année. Mm-hmm. Puis elle a réussi à aller se chercher un montant de $477,214 comme salaire total. En heures supplémentaires, $282,000. Primes, $85,000. Avantages sociaux, $36,000. Il y a d'autres charges directes.
À pas arrêter de l'année.
Mais on parle d'une travaillante. Là. On parle de quelqu'un qui ne doit pas avoir grand jour de congé. Puis pour ce qui est des congés de Noël puis du jour de l'an, d'après moi, elle, c'est le gaz au bout. Là.
J'espère juste que c'est pas l'infirmière qui a fait semblant d'être une infirmière au Saguenay pendant 20 ans sans aucune formation. Là. Si c'est elle, en tout cas, à trouver à passe. Là.
C'est elle, on est dans le drame.
Oui, mais pas tant. Parce que ce qui est hallucinant, c'est qu'elle donnait des cours après quelques années.
T'as raison.
Écoute, on a affaire à quelqu'un qui était un génie.
Elle était tellement rendue performante.
Peut-être qu'il faut le voir de même. Elle a appris sur le tas, mais elle a appris.
Il est en content de la rappeler. Une autre infirmière en Estrie, 465 000. J'ai une infirmière auxiliaire. Ça a l'air de base d'une infirmière auxiliaire. Il n'est pas très différent là, d'une infirmière bachelière. On descend d'à peu près 10 000 $ Donc, le salaire de base est à 60 000. En heures supplémentaires, elle est allée chercher 154 000, avec les primes, un 53 000, salaire total autour de 281 000 $ pour une infirmière auxiliaire. On en a une dans la capitale nationale qui travaille énormément aussi, qui est allée chercher un 250 000 $ Préposé aux bénéficiaires. Ça, là, c'est le monde qui travaille en sacrament au niveau physique. Là. C'est eux qui lavent ta mère, c'est eux qui lavent ton père. Ils échangent de couches, ils échangent de lits. C'est des gros travaillants. Salaire de base, Denis, 44 500 $ Le préposé aux bénéficiaires en Estrie est allé chercher un montant de 219 000 $.
D'après moi, il a travaillé pour.
Encore là, il a travaillé pas pire. Où est-ce que je veux en venir avec ça? C'est que il y en a encore qui travaillent énormément dans le système de santé. Je pense que le Doc Savard fait partie de ceux-là. Je pense que ça fait 26-27 jours qu'il travaillait en ligne. Mais est-ce qu'on valorise ça encore aux yeux du gouvernement? Parce que ces gens-là, au niveau de l'impôt, là, je peux t'annoncer qu'ils ne sont pas gâtés. Là. Parce que là, on parle d'un salaire total de 450, quasiment 500 000 $, mais ils se font manger plus de la moitié en impôts. On devrait tellement, dans le système de santé, puis dans plein d'autres corps de métier qui sont hyper importants pour que le système peut fonctionner, de leur donner une grâce au niveau des impôts. C'est-tu un 5 %? C'est-tu un 10 %? Mais si vous dépassez vos heures, si tu dépasses ton 40 heures, au lieu de te pénaliser, mon salaud, parce que tu as dépassé 40 heures, on va dire, tu sais quoi? Tu as 20 ans, tu es un préposé aux bénéficiaires, tu fais ton travail, tu veux faire des heures supplémentaires, mais on va te dire un gros merci, puis on va t'enlever un peu moins d'impôts.
Je trouve que la résolution puis la réflexion est bonne, mais je suis curieux de savoir comment c'est perçu. Tu sais, moi, tu me donnes deux exemples. Tu me donnes ton exemple de préposé aux bénéficiaires, puis tu me donnes ton exemple d'infirmière. Moi, dans les deux cas, ma réaction, c'est de dire que c'est des gens qui travaillent fort puis qui méritent leur argent.
Oui.
Mais les gens qui nous écoutent, là, 418-971-1021, pour vous autres, c'est-tu du monde qui travaille fort ou c'est du monde qui abuse des lacunes du système? Juste par curiosité, je veux savoir comment c'est perçu ça, parce que j'ai l'impression qu'au gouvernement, on ne veut pas citer ces gens-là en exemple. On veut se dire, OK, il y a encore des trous qui permettent à des gens d'aller chercher ces salaires-là. Ces trous-là, il faut les colmater. Mais je suis curieux de savoir comment c'est perçu dans la population puis dans les chars à matin, par exemple. Parce que moi, je peux pas voir autrement que des gens qui travaillent très fort puis qui tiennent à bout de bras un système qui s'écroule de partout.
On va aller voir l'individu dans le show qui est le plus proche du communisme. Maxime Larouche?
Oui.
Tu perçois ça comment, toi, le fait que des gens qui travaillent dans le système de santé peuvent aller chercher d'excellents salaires? L'air en travaillant en malade?
Ben moi, ça me rappelle mes premières années à Boulevard.
Quand tu chargeais à l'heure.
Exact.
Ouais, c'est fini ce temps-là.
Non, moi, si ces gens-là veulent travailler puis faire qu'il manque pas d'employés, on crachera pas dessus. Hein?
Ouais. La seule inquiétude que je peux avoir, Denis, c'est la même inquiétude que je peux avoir pour des camionneurs. Ces gens-là doivent être extrêmement éveillés. T'es infirmière, il faut que tu sois éveillé. Le camionneur, il faut qu'il soit éveillé parce qu'il est sur la route. Moi, à la naissance, je sais pas si c'est à la naissance de mon premier ou mon deuxième, mais l'infirmière était à côté de nous autres et elle voulait prendre une prise de sang à la mère. Et à un moment donné, elle a dit, je dois arrêter, je vais aller chercher une de mes collègues, je tremble trop, je serai pas capable de pogner votre veine. Puis mon premier réflexe, ça a été, tabarouette, OK, elle est professionnelle en sacrement, là.
Ouais.
Elle veut pas rater sa shot. Fait que ça faisait son deuxième quart de travail, elle était rendue quasiment à 14 heures.
Elle était au bout du rouleau.
Ce qu'elle m'avait expliqué. Elle avait passé la journée de bout à être sous le stress. Quand tu es infirmière ou quand tu es camionneur puis tu dépasses tes heures, est-ce que tu représentes un danger pour le public?
Ben écoute, c'est des gens qui travaillent pas en solo, hein. Fait que j'imagine que dans l'équipe, quand on voit quelqu'un qui commence à cailler puis qui commence à être moins performant, vif d'esprit, j'imagine qu'on signale. Je veux dire, on joue avec la vie du monde, là, au total tout, là. Moi, les gens qui pilent des heures à ce point-là, j'imagine que s'il y avait des manquements au niveau de leur performance ou au niveau de leur énergie, ben j'imagine que ça aurait été adressé. Ouais.
Jeff,
j'imagine, j'ose espérer.
Jeff, ta perception?
Ben ma perception, moi, c'est des gens qui travaillent fort.
Je pense qu'en majorité, on pense
ça. Je pense que c'est des gens qui sont avant tout emprunt aussi d'une mission. Tu sais, Martin l'a bien dit, quand tu as posé la question, tu vas-tu aller au privé? Non, moi, tu sais, je travaille aux soins intensifs. Les soins intensifs, c'est au public.
La vocation.
C'est là, puis je crois encore à ce que je fais. Donc, c'est clair que c'est ça. D'un autre côté, bien, c'est sûr, tu sais, je le disais tout à l'heure, moi, j'ai toujours une crainte pour un acte médical qui va être manqué. Une erreur, là, parce que
toujours.
Tu peux pas être concentré à faire des actes médicaux, puis tu peux pas avoir la force, la résilience physique pour faire ça pendant 80 heures par semaine,
et juste
52
ou pas,
semaines par année.
Juste ou pas, Jeff, c'est un corps de métier où t'as juste pas le droit à l'erreur.
Exactement.
Dobèche peut en laisser passer une. Oui. C'est pas grave en bout de ligne.
Montembeau, par exemple, qui ose pas.
C'est pas une porte que j'aurais dû ouvrir.
Denis,
mais.
Quelques commentaires qui sont rentrés texto au 418-971-1021. Amy qui nous écrit, elle dit « Allez faire une journée en CHSLD comme préposé. Vous allez voir, on va s'en reparler. Ils ont pas volé leur argent. »
Ah, c'est, je le crois.
C'est gagné à la sueur de leur front. Par contre, après 16 heures en ligne, elle est un peu d'accord avec nous autres aussi là-dessus, c'est pas vrai que tes frais dispo que tu... tu sais, il faut faire attention, tu manipules les gens, tu joues avec la vie des gens.
Écoute,
c'est cette personne-là, c'est le proche de quelqu'un, il faut que tu fasses attention, même après un bon nombre d'heures.
Tu sais, à 17h45, des fois, on s'endort dans le retour. Fait 4 heures qu'on est en onde.
Imagine.
Mais des fois, il faut se donner un petit coup de pied aux fesses pour dire « Hey, il y a du monde dans le trafic, là, faut rester là, faut rester présent d'esprit. » Tu sais, imagine-toi, vous allez traîner à l'urgence pour une raison ou pour une autre, puis tu sais, des fois, on revient de là, puis on est brûlé juste de tout ce qui se passe autour. Le stress que tu vois autour, l'énergie qui n'est pas toujours bonne que tu vois autour. Tu sors de là, tu es vidé mentalement, physiquement. C'est pas des milieux de travail qui, à la base, sont agréables. C'est du stress par-dessus du stress par-dessus du stress. Moi, j'ai aucun doute que quelqu'un qui est là-dedans 14 heures en ligne est au bout du rouleau. Mais il faut que ce soit des gens responsables, parce qu'il ne faut pas que ce soit un concours d'orgueil ou un concours pour aller chercher une pièce supplémentaire. Ce que je veux dire, c'est que l'infirmière qui est allée chercher sa collègue parce qu'elle shakait quand est venu le temps de faire une prise de sang, pour moi, c'est une personne responsable qui a eu le bon call puis qui a pris la bonne décision.
David qui dit « Moi, je dis qu'ils méritent vraiment beaucoup leur salaire, mais ça veut dire que est-ce que ça veut dire que d'autres travaillent pas assez? » Bien, il y a un manque de personnel, là, donc...
Exactement.
Mais c'est ça. Je pense que la solution pourrait être là pour ce qui est de Christian Dubé, c'est-à-dire les gens qui travaillent en santé... Et dans les autres endroits où on a besoin de ces gens-là pour que le système fonctionne, quand il y a du travail supplémentaire, ben est-ce qu'on peut... Ils ont fait leurs 40 heures. Ils paieront leurs impôts sur le 40 heures. Mais on peut-tu diminuer le taux d'imposition sur le 40 heures et plus?
Il y a moyen de trouver des façons de faire en sorte que les gens qui travaillent fort soient récompensés. Puis de donner du plus-value aussi à des gens qui se font dire par l'Ontario, ben venez-vous-en, un 800 Doug Ford, on a des belles conditions, puis vous allez aimer ça.
On parlait avec Jeff un matin. T'as 20 ans, tu regardes le prix des maisons, tu dis, comment je vais faire pour me ramasser un cash down? Tu travailles dans le système de santé, t'es préposé aux bénéficiaires, tu sais que tu peux faire du travail supplémentaire, puis si tu le fais bien, mais ils vont te rappeler, puis ils vont te demander d'en faire encore plus. Tu regardes, écoute, t'as pas d'enfant, tu regardes la soirée du 24 au soir, tu regardes, tu sais quoi, je regarde le montant que je pourrais me faire si je travaille le 24 décembre au soir, et moi y aller au prix comme préposé aux bénéficiaires. T'as 20 ans?
Combien d'années on est prêt à aller n'importe où il y a de la job puis des conditions, le fun? Moi, j'ai été peut-être un 8-9 ans là, flottant, là, puis je fais partie des chanceux. Je veux dire, j'ai commencé à travailler dans la ville où je rêvais de travailler très jeune. Mais il y a quand même un endroit où on est une période de temps, puis souvent, c'est les enfants peut-être qui déterminent s'acheter une maison, puis ainsi de suite. Mais tant que les gros moves sont pas faits, et des fois même après, il y a une grande partie du temps où ce qu'on est très ouvert à dire « Ah ouais, il y a de la job en Colombie-Britannique, ben je partirais peut-être. Moi, en Colombie-Britannique, essayer autre chose, vivre autre chose. Les conditions sont meilleures, le salaire est meilleur. Ils ont le goût de nous voir ici, la vibe est pas bonne. On s'ostine avec un gouvernement, on se met du tape noir en avant de la face pour faire des manifs, puis tout. Il n'y a rien de bien excitant là-dedans. Là. »
Ouais, puis t'amènes un bon point, parce que ceux qui vont quitter... C'est les jeunes, ou à moins que tu restes en Outaouais puis tu as juste un pont à traverser pour aller travailler à Ottawa. Mais les autres, c'est les jeunes qui vont quitter. Puis ça, c'est notre relève.
Ben oui.
Tu sais, c'est Pascal Renault qui nous disait on est rendu à un médecin sur trois omnipraticiens dans la capitale nationale qui a 60 ans et plus. On peut pas perdre de jeunes.
Non. Ben non, on n'a pas ce luxe-là, mais on travaille fort pour que ça arrive.
Mais c'est ça, mais les jeunes peuvent partir. Parce que, OK, garde, puis tu sais, je veux pas commencer à faire de trop simples comparaisons, mais il y a beaucoup de couples aussi de médecins. Beaucoup de couples de jeunes médecins femmes, jeunes médecins hommes.
Ben, les études sont longues, fait que tu rencontres des gens, puis tout, c'est normal.
Ça
fonctionne bien parce qu'ils se voient jamais.
Ben, c'est ça, exactement.
Donc, quand ils se voient, ben, ils ont de l'argent, ils peuvent partir.
C'est ça. Hey, on se paye tout ça, chérie.
On engourdit le malaise.
Ça fait 30 jours en ligne qu'on travaille, ouais. Chérie, on se paye tout ça. Mais ce que je veux dire, c'est qu'eux autres peuvent regarder la situation et dire « Hey, regarde, on peut aller s'établir n'importe où.
Ouais. »
Les parents sont pas encore vieillissants, c'est ce que tu disais tantôt, en prendre soin. Tandis qu'un gars comme Martin, qu'on regarde, Martin doit être quoi, rendu début cinquantaine, les enfants plus vieux, la famille.
Ce bout-là est passé.
Tout le monde est installé, là, tu vois, bof, je commencerai pas à tout scraper ça.
Ouais, c'est ça. Mais c'est une solution, ça, que le gouvernement peut amener pendant un certain temps. Ça peut-être être sur 10 ans, ça peut-être être sur 15-20 ans. Pendant les prochaines années, comme on a des difficultés en santé, ben ceux qui font du travail supplémentaire obligatoire, dépasser 40 heures, on diminue le taux d'imposition pour être sûr et certain que les jeunes qui veulent travailler plus fort, puis ceux qui se ramassent à 50 ans, puis ils disent « Tabarouette, t'as un peu, là, mes enfants sont élevés, j'ai plus de blonde, ça me tente de donner un bon coup pour avant ma retraite. » Why not?
Mais on n'y va pas de la bonne façon, on ne stimule pas, on oblige. Ce qui est sur la table présentement, c'est d'obliger le médecin qui a fait ses études au Québec de rester au Québec pour ses premières années, comme si c'était un camp de concentration qu'il fallait qu'il fasse avant d'aller se gâter ailleurs.
Ouais, puis un autre cas que je peux t'amener, ça n'a pas rapport avec le système de santé, j'en parlais avec les gars. J'ai rencontré un monsieur qui travaille encore dans une quincaillerie à 85 ans.
Mm.
Puis il m'a dit, moi, je travaille 2-3 jours par semaine. Il ne faut pas trop que je travaille parce que sinon, ils vont me couper sur ma pension. Voyons, comment ça peut être possible? Le monsieur a travaillé toute sa vie, il a payé tous ses impôts, puis rendu à un certain moment de sa vie, il veut aller faire du social dans une quincaillerie, il travaille, il sert à quelque chose, il aide la société, puis on va le pénaliser sur sa pension parce qu'il travaille trop.
Faut que je travaille, mais pas trop.
Oui, puis lui, là, en le laissant travailler, Denis, tu l'éloignes de l'hôpital.
Mm. Mais on a une mentalité tellement étendue là-dessus, tu sais, travailler, mais pas trop. Quelqu'un qui commence à l'usine puis qui se fait rencontrer par son syndicat. « Hey, Tipit, tu nous fais mal paraître. Ralentis. » C'est arrivé au Saguenay. C'est arrivé partout où ce qu'on a grandi proche des usines. Tout le monde connaît quelqu'un qui a vécu l'histoire de se faire avertir par un syndicat qui travaillait trop vite, qui travaillait trop bien, qui travaillait trop fort. « Slack, tu nous fais mal paraître.
Ouais. »
On dirait qu'on a cette mentalité-là puis qu'elle est étendue à grandeur. T'es une personne âgée, tu veux rester actif, tu veux rester productif pour la société, mais attention, pas trop, parce qu'on va te couper ailleurs. Come on.
Je le dis souvent à Jeff, moi, là, Jeff, faudrait que tu te calmes, parce qu'on a toute l'air de jamais rien faire à Jeff. On a toute l'air d'une gang de lâches.
Je suis pareil à Véro, mais elle m'écoute jamais.
Non, c'est ça. Hey, dossier que je voulais absolument aborder avec toi, parce que je t'ai entendu en parler avec Véro et Nathan hier.
Calvasse.
Pauvre Nathan, qui était pogné entre deux feux, mais j'étais dans mon char, puis j'étais fourré en sacrement. Puis j'en ai parlé un peu avec Max, j'en ai parlé un peu avec Jeff, puis je veux qu'on en parle les quatre, puis on va mettre les auditeurs dans le bain. Ça se passe au palais de justice où il y a un gars qui est accusé d'avoir agressé sexuellement une femme.
Au Saguenay.
Au Saguenay. Ils se sont rencontrés dans un party de bureau. Les deux étaient alcoolisés, donc à savoir, bon, lequel était le plus sous que l'autre, on ne sait pas trop. Mais ce qu'on sait, c'est que la dame, pendant la nuit, s'est réveillée et elle s'est rendue compte que l'accusé, Benjamin Tremblay, il zignait dessus. Puis sur les caméras de surveillance, on voit Benjamin Tremblay qui rentre et qui sort de la chambre de la victime. Et le lendemain, Benjamin Tremblay et la victime se sont parlé et la victime lui a dit « Mais tu m'as agressé sexuellement ». Lui ne semble pas avoir de souvenir de ça. Il dit « J'ai pas de souvenir, mais je te crois. » Là, moi, je vous entendais parler de ça hier, puis je me suis rappelé mes jeunes années. Non, j'ai jamais agressé sexuellement personne, mais c'est arrivé une couple de fois que je me suis réveillé le lendemain matin puis que je me souvenais pas de ma soirée.
Mais en quoi c'est une excuse valide
devant la
cour?
Ça n'en est pas une, mais quand ça t'arrive, tu t'attends à ce que le juge prenne ça en considération. Monsieur le juge, savez-vous quoi? Je suis pas mal persuadé que ce que cette victime-là dit, c'est vrai. Probablement que j'ai fait ça. Mais, monsieur le juge, je n'ai aucune vision de l'avoir fait. Je suis persuadé de ne pas l'avoir fait, mais je la crois.
Ce qu'il faut comprendre, c'est que le gars a plaidé coupable et que les avocats se sont entendus. Puis c'est des avocats qui cumulent plusieurs dizaines d'années d'expérience. Les avocats se sont entendus pour proposer au juge une absolution inconditionnelle. Donc, tu es coupable, mais tu n'as pas de sentence. Puis tout ce qu'on te demande, c'est à des fins futures de fournir un échantillon d'ADN. Mais t'es pas rentré dans le registre, tu passeras pas une seule minute de ton temps en prison, t'es pas en liberté surveillée, il y a absolument rien dans le dossier, tu peux partir en Floride, demain matin, je trouve que ça n'a pas de maudit bon sens, que ça lance un message drôlement dangereux alors qu'on n'arrête pas de dire qu'on est responsable de nos actes. Quelqu'un qui va prendre son char en boisson, qui va faucher une petite famille sur la route, qui va tuer quatre personnes, va dire « Monsieur le juge, je m'en souviens pas, je plaide coupable. »
Il admet ses torts.
« Je peux-tu avoir une absolution inconditionnelle? » Ça fait pas de sens. Pour que cette histoire-là fasse du sens, faut qu'il y ait quelque chose dans ce qu'on sait pas qui justifie cette décision-là. Et le problème est là. Il y a des informations sensibles dans ce dossier-là où le juge a décidé de faire confiance aux avocats. OK? Il y a un bout qu'on ne sait pas de l'histoire.
Ouais.
Le gars fait-tu du somnambulisme? Y a-tu une condition reconnue, par exemple, où il fait des affaires qu'il ne se souvient pas, que ce soit en boisson ou pas?
Mais il faudrait qu'il aille dormir avec elle. Le problème, c'est qu'il n'a pas dormi parce que c'est un party d'employés où les conjoints, les collègues et les amis étaient invités.
Ouais.
Et dans ce cas-ci, l'agresseur, parce qu'on peut dire que c'est un agresseur, l'agresseur a violé la victime et ne lui avait jamais parlé.
Les deux se connaissent pas.
C'est pas des collègues.
Non.
C'est pas des conjoints. C'est pas des amis. Alors, comment le gars s'est rendu...
s'est retrouvé là.
Ouais. S'est retrouvé là. On n'a aucune idée. Mais c'est weird parce que, tu sais, ce qu'on met dans les mains là, de la madame là, qui représente la justice, là, c'est une balance. Fait que le juge doit être la balance.
Ouais, mais...
Puis il faut que chaque... autant l'accusé... Que la victime ait l'impression que justice a été rendue. Fait que le gars qui se réveille le lendemain de brosse puis qui se fait raconter l'histoire par une fille qui est en larmes en disant « Tu m'as violé », lui se souvient de rien. On le prend ça en considération? Si on le prend en considération, c'est exactement ce que tu dis.
Toute ma vie...
C'est que tout le monde va utiliser cet argument-là.
Toute ma vie, on m'a dit que le blackout, c'est pas une excuse. Moi, c'est arrivé une fois... qu'on me raconte le lendemain ce que j'avais fait la veille, puis je m'en souvenais pas. Puis ma réaction, ça a été de la panique, là. Mais de la panique, là. OK, fais-moi la liste du monde à qui qu'il faut que je m'excuse, puis ça presse. Pour vrai.
Ouais.
Parce que tu te sens comme de la merde.
Ben
tu te
dis,
je peux pas avoir fait ça, je peux pas avoir fait ça, je peux pas avoir fait ça. Puis, hey, ce pauvre monsieur-là, pauvre entre guillemets, j'irai en appel. J'irai en appel pour avoir une sentence. Parce que moi, le premier, je me dirais, ben ça n'a pas de Christie de bon sens. Je l'ai fait. Mon ADN est là. Vous me voyez rentrer, sortir. Le blackout, c'est pas une excuse. Donnez-moi une sentence, monsieur le juge.
Mais c'est weird en sacrament.
C'est très weird. Moi, je dis toujours, t'es responsable de ton niveau de consommation parce que quand t'as pris ta première gorgée, t'es en toute conscience.
Je suis de ton bord.
Donc, à partir de là,
hey, Samson,
je suis en désaccord avec la décision.
C'est parce qu'on lance un message vraiment dangereux. Hey, tu files pour Frenchy une fille qui veut pas, prends trois bières de plus, puis tu vas pouvoir dire tu t'en souviens
mais,
pas.
Mais là, avoir les mains baladeuses.
Ben
Jeff,
oui.
Mais Jeff, le gars, plaidé coupable.
Oui, oui, oui.
Fait que toi, t'aurais plaidé coupable, puis le juge te dit, garde. T'es coupable, mais t'as une absolution inconditionnelle parce que c'est pas de ta faute.
Ça, je comprends, là. Je comprends que le gars fasse OK, alléluia, ça me tombe du ciel.
Je te jure que je vais en appel. Je veux une sentence. Ça n'a pas de sens. Les fins de semaine, au pire, je veux dire, donnez-moi quelque chose. Donnez-moi quelque chose. J'ai blackouté sa boisson. Puis je suis allé laisser mon ADN à une place où ce que j'avais pas d'affaires.
Ouais. Mais t'as vraiment raison de l'unir sur le point qu'il y a des affaires qu'on sait pas. Puis c'est un fait. Puis même ce que dit le juge, c'est ouais, ben je me suis fié sur l'expérience des avocats.
Ouais.
Puis je me dis qu'il y a sûrement, pour qu'ils s'entendent eux, il y a sûrement des affaires que moi, comme juge, j'ai pas besoin de savoir.
Écoute,
faudrait que t'ailles les informations.
J'espère juste, parce que des fois ça arrive, puis ça c'est vraiment malheureux, j'espère juste que la victime a été consultée par son avocat. J'espère que la victime est d'accord avec la suggestion de l'avocat. Puis si elle est zen avec ça, nous autres, on peut tous prendre un pas de recul.
La fameuse balance de la justice.
Mais maudit que ça lance un message tordu et pervers à une ère où on nous dit, les gars, faut être responsable de nos actes en tout temps.
J'étais dans mon char hier, je vous écoutais parler, là, il y avait trois opinions. Là. Puis j'étais d'accord avec les trois.
Ouais.
J'étais là, mais voyons donc.
Moi, j'étais juste d'accord avec la mienne.
Moi, j'étais d'accord avec les trois parce que j'ai déjà été le gars qui a pris un verre de trop. Puis le lendemain, je me réveillais. Puis là, mes chums me disaient, des fois, ils en profitaient. Ben oui, t'es allé te promener à telle place. Puis là, tu disais telle affaire. Puis là, tu t'inventais des trucs. Puis là, on riait. Je me souvenais absolument de rien de ça.
Mais
la fille a dit, il y a une fille qui disait, hey, t'as essayé de me frencher, mettons, au DAG lundi soir. J'étais obligé de dire, hey, tu sais quoi? Probablement que ça s'est fait. Puis je m'excuse vraiment, mais j'ai aucune image de ça.
Mais en t'excusant,
tu responsable.
C'est ça, tu plaides coupable dans
ben
le
oui.
fond. Je dis ben oui, ben c'était moi. Hein? Je m'en souviens pas, mais c'est moi qui l'ai fait. Je m'excuse, je me sens comme une merde. Je veux dire, mon boss, veux-tu me suspendre? Je veux dire, si tu allé trop loin, veux-tu aller devant le juge? Moi, y aller avec toi, je veux dire là.
Ce que je comprends, c'est que ta blonde, quand elle te chicane pas, tu lui demandes de te chicaner pareil.
C'est ça.
Ouais. Le sadomasochisme, c'est ça.
Non, c'est juste d'être conséquent puis d'être responsable de ses actes.
Ouais.
Toute ma vie, c'est ça qu'on m'a dit, qu'il faut être responsable de ses actes. Puis pas s'en souvenir, c'est pas une bonne excuse, ça.
Il y a le bout weird aussi. Tu sais, c'est pas une histoire de deux individus reviennent ensemble du bar, puis là, les deux, le lendemain, c'est un peu... Tu sais, tu le vois rentrer, puis elle a dit qu'elle s'est réveillée pendant qu'il... Fait clairement, il y a des affaires louches qui sont pas signes d'une relation sexuelle très consensuelle.
Il y a des traces d'ADN qui ont été découvertes sur les sous-vêtements de la femme.
Ben, ce qui est normal s'il y a eu relation sexuelle, là, mais moi, c'est vraiment le point qu'il rentre là, il ressort, il rentre, elle se réveille pendant qu'il fait ça. Il y a comme plusieurs affaires là-dedans.
C'est complètement weird.
Tant qu'à pas me souvenir de ce que je fais, j'aime bien mieux faire comme Max puis scraper les soirées karaoké de la région de Québec au grand complet. Là.
Autre sujet, il y a une étude qui a été publiée hier par la gang de Too Good To Go un laboratoire scientifique analytique en agroalimentaire de l'Université de Dalhousie. Donc, on peut penser que c'est notre chum Charles Bois qui était derrière ça, qui mentionne qu'en moyenne, chaque famille jette 300 piastres de nourriture chaque année. Est-ce que c'est votre cas?
Je suis pas une famille, moi, mais j'en jette beaucoup parce que je fais l'épicerie sans faire de liste. J'achète un peu n'importe quoi en rabais, puis j'oublie ça dans le frigo. Puis là, un mois plus tard...
Tu le perds. Ça un sent mois?
Ben, des fois, ça prend un bout avant que... Ouais, je sais, des fois, il faut que ça... Ouais.
Moi, on a déjà été 6 dans la maison, là, puis c'était moi la poubelle, tu sais, c'est... Je ramassais quand j'avais le temps, là, mettons, j'étais tout seul à la maison, c'était un souper, je regardais ce qui restait, je chantais, ça sentait bon, je pouvais manger ça sans aucun problème. J'ai jamais regardé les dates de péremption, mais la majorité des Québécois, Denis, regardent les dates de péremption, puis à partir du moment où, exemple, il y a un pain qui passe date le 18 novembre, en date d'aujourd'hui. Au lieu de le mettre dans le grille-pain puis de le sentir puis de dire « Ah, ben c'est comestible », il le jette.
Moi, je check pas les dates. Je me fie à mon nez, je me fie à mon instinct. Mais ma blonde est très militaire. Là. Je veux dire, le restant qui est dans le frigo depuis 2-3 jours, je vais me faire réchauffer ça. « Ah, touche pas à ça, c'est plus bon. » Ah oui, c'est encore bon, ça sent encore bon, c'est encore de la bonne couleur. Mais il y a des gens qui ne jurent que par la date du meilleur avant. Ça veut pas dire que le lendemain, c'est pourri. Là.
La date de péremption, ça veut dire quoi?
Meilleur avant.
Péremption périmée, pas bon.
OK. La façon dont ça a été fait, là, la date de péremption, c'est que jusqu'à cette date-là, tu as la qualité optimale du produit.
Exact.
Donc, si tu dépasses le 18 novembre, c'est-à-dire le 19, là, la qualité optimale va commencer à diminuer un peu.
Mais tu vois, moi, je fais une différence, puis peut-être que c'est à tort, là, mais entre meilleur avant et date de péremption. Pour moi, meilleur avant, c'est correct une couple de jours après. Date de péremption, pour moi, péremption égale tu manges chaud puis t'es malade. Là.
Okay.
Mais meilleur avant, ça, j'ai moins de problèmes. Puis alors que c'est peut-être juste la même affaire.
C'est la même affaire.
Bon, ben, je suis un peu niaiseux.
Ben, t'es pas niaiseux. C'est juste que ça nous a jamais été expliqué convenablement.
On n'est pas niaiseux, c'est juste qu'à la fin de l'année, ça nous coûte cher.
Ouais. Comme j'ai été pauvre très longtemps dans ma vie, je peux te dire que les dates là, à lesquelles le produit passe date, je me suis jamais fié à ça.
Ça
j'ai
veut dire
tout le temps été à l'odeur.
Ça veut dire qu'à chaque année, on jette l'équivalent d'une grosse épicerie par année.
Ouais, exact.
Ouais.
Exact.
Mais la semaine passée, j'avais acheté 4 morceaux de viande à l'épicerie la veille. Puis là, le lendemain, j'arrive pour la faire. Puis il y a un des morceaux qui était meilleur avant, comme aujourd'hui, cette journée-là. Puis la couleur n'était pas exactement comme les autres. Puis je l'ai jeté. Moi, je suis très, très, très prudent.
Moi, ça va dans deux sens. Puis quand j'ai appris que ça allait dans deux sens, ben j'ai vu que les dates, c'était pas là-dessus qu'il fallait se fier. Ça vous est sûrement déjà arrivé d'acheter de la viande à l'épicerie, puis vous arrivez le lendemain, puis elle sent déjà pas bon.
Oui.
Mm-hmm. Puis ça empeste le frigidaire. Pourtant, tu regardes la date, tout est beau. Si la date marche pas dans ce sens-là, ben, elle marche pas dans l'autre sens non plus. Il faut se fier à nos sens, puis il faut se fier à notre jugement.
Ouais, exact. Mais ça n'a jamais été expliqué convenablement.
Ouais, c'est
cette
vrai,
fameuse ça. Date de péremption. Puis tout le monde dit « Ah, ben on est le 18 novembre, c'est plus bon. » Alors que ça peut être bon encore pour quelques jours. Je pense qu'il y a le lait. Moi, je pense que c'est le lait qui... Tu sais, quand je vois la date sur le lait, là, on dirait que là, c'est un petit peu plus difficile.
C'est clair.
Ouais. L'autre fois, j'ai bu 2-3 bonnes gorgées. Puis moi, je suis seul chez nous, je bois direct dedans. Là,
après 3 caillots, t'as compris.
Non, non, il goûtait pas si pire. C'est après que j'ai vu la date, puis c'est là qu'il est devenu plus bon.
Après que t'aies vu la date.
Ouais,
ouais, ouais,
mais il
ouais,
était
okay.
déjà avalé.
Denis Gravel, merci. Je
salut
te laisse
amis.
Partir, cher ami. On t'écoute à 14h. Merci
à
beaucoup pour ces
salut.
Belles discussions. 418-971-1021. 418-971-1021. S'il se passe quoi que ce soit sur la route, merci de nous en informer. Dans les prochaines secondes, on va parler justement de ce qui s'est passé hier à Ottawa, où le budget a finalement...